Chapitre 2. À ce moment, un bruit de voiture les interrompit. Elle arrivait avec fracas d'un train de course et, sur le pavé, sonnait le trot d'un cheval lancé à toute vitesse. « Voilà ton cousin !» s'écria Sélanie. « Il n'y a que lui pour marcher ainsi !» En effet, Belloc était célèbre dans le pays pour sa façon de conduire. Entre ses mains, le cheval le plus pacifique ou le plus rétif prenait tout de suite l'allure du cheval le plus vite ou le plus docile. Quand il traversait un village, on se mettait sur les portes pour le voir passer, et c'était avec admiration qu'on le regardait. « C'est Monsieur Belloc. Conduit-il bien ce matin-là » À la vérité, ce matin, qui conduisait si bien, avait plus d'une fois écrasé des cochons ou estropié des enfants. Mais cela n'avait pas ralenti son train. Il avait toujours su prouver que c'était la faute des cochons ou des enfants, et n'ayant jamais eu rien à payer pour ses accidents, il n'avait pas trouvé utile de changer ses habitudes. C'était pour ceux qui vont en voiture que les routes sont faites. Sylvain s'était avancé vers la porte. Sa femme se jeta sur lui et le repoussa. « Veux-tu bien ne pas te montrer ?»« Mais... il n'y a pas de mais. » Il ne faut pas que ton cousin te voie. Ce n'est pas à toi qu'il doit avoir affaire, c'est à moi. » À chaque mot qu'elle disait, elle lui faisait faire un pas en arrière. « Tu n'as pas peur qu'il me mange ?»«
J'ai peur. » »«
Tu ne dois pas avoir peur. » Ils étaient arrivés à la porte de sortie qui, de la salle à manger, communiquait avec la cuisine. Elle l'ouvrit et le poussa dehors. « Envoie Jeanne en course et garde les enfants, que personne ne nous dérange et ne nous entende. » Et vivement, elle referma la porte au nez de son mari indécis. Il était temps. Le cabriolet venait de s'arrêter devant la maison. Quand Belloc aîné entra dans le bureau, il se trouva en face de Sélanie. Elle ne laissa paraître ni surprise ni curiosité, et de l'air d'une femme qui est chez elle, elle attendit. D'un geste écourté, Belloc porta la main à son chapeau de paille. « Bonjour !» Avec une inclinaison de tête plus écourtée encore, elle répondit « Bonjour !» Puis ils restèrent en face l'un de l'autre, se regardant. Sélanie, qui avait eu le temps de se préparer et qui l'attendait, avait pris l'attitude calme et digne. Belloc, au contraire, semblait être sous l'influence d'une colère impatiente. D'ailleurs, ça avait été toujours son côté faible de ne pas pouvoir se modérer, car sous une apparence placide et tranquille, son sang bouillonnait, et s'il se contenait, c'était par un effort incessant de volonté. « Où est Sylvain ? » demanda-t-il.
« Il n'est pas ici. »
« À cette heure ?»«
À cette heure. Lui aviez-vous annoncé votre visite ?»«
Ne m'attendiez-vous pas ?»
Sélanie prit un air d'une innocence parfaite.
« Pourquoi donc vous aurions-nous attendu ? » dit-elle froidement. « Il n'y a plus rien de commun entre nous depuis longtemps. » Il commençait à perdre patience. « Je viens chercher ma Richette. »«
Ah ?
Me direz-vous qu'elle n'est pas ici ?»«
Je ne dis rien, je réponds simplement à vos questions. »«
Eh bien, remettez-la-moi. » Ces quelques paroles s'étaient échangées dans le bureau rapidement et en toute liberté puisqu'il n'y avait personne. À cette dernière demande, Sélanie s'inclina. « Voulez-vous me suivre ? » dit-elle. Et elle ouvrit la porte du vestibule pour passer dans la salle à manger où il la suivit. Au regard qu'il jeta autour de lui, il fut évident qu'il cherchait Marichette et qu'il était surpris de ne pas la trouver.
« Où est-elle ? » demanda-t-il.
« Qui ?
Ma Richette, parbleu !»
Sélanie se mit à rire. « Comment ? Vous vous êtes imaginé que je vous amènerais près d'elle ? Et il y a des gens qui parlent avec admiration de la finesse de Belloc aîné. » Ce qu'il ne pouvait surtout pas tolérer, c'était qu'on se moquât de lui. Cette raillerie, de la part d'une femme qu'il détestait, l'exaspéra. Elle le vit crisper ses deux poings et elle éprouva une sensation de jouissance. Enfin ! Puisqu'il ne pouvait pas l'étrangler, la coquine, il fallait bien qu'il se contînt. « Où est ma Richette ? » demanda-t-il en s'efforçant de se calmer.
C'est justement pour vous parler d'elle que je vous ai amené dans cette salle où nous pourrons nous entretenir plus librement que dans le bureau. Vous convenez donc qu'elle est ici ?
L'ai-je nié ?
Vous savez quel droit la loi me donne sur elle. Remettez-la entre mes mains.
Pourquoi n'avez-vous pas amené les gendarmes avec vous pour appuyer vos droits ?
Si je ne les ai pas amenés aujourd'hui, n'oubliez pas que je veux les envoyer demain.
Eh bien, envoyez-les. Aujourd'hui, je vous la refuse. Demain, je la refuserai à eux.
Vous savez que la loi punit le détournement de mineurs.
Vaguement, comme quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce genre d'exercice. Je m'en rapporte à vous, qui avez toute compétence à ce sujet. Mais puisque vous parlez de la loi, vous devriez bien ne pas oublier qu'elle destitue les tuteurs dans certains cas prévus.
Vous osez me menacer ?
Mon Dieu, oui, j'ai cette audace. J'ose menacer mon sieur Belloc.
Il s'avança sur elle, les poings levés.
Je vous briserai.
Vous ?
Elle haussa les épaules.
Regardez-moi bien et voyez si vous me faites peur.
Elle attendit un moment et sans baisser les yeux, elle soutint le regard de rage furieuse dont il l'enveloppa. Puis elle reprit.
Vous voyez bien que non, n'est-ce pas ? Défaites-vous donc de cette manie de menacer les gens.
Ce n'est pas la première fois que vous me menacez. Il y a déjà plus de 10 ans que vous deviez me briser.
À quoi êtes-vous arrivé ?
Vous aviez un cousin dévoué qui travaillait pour vous et vous épargnait toutes les hontes auxquelles vous expose votre manque d'éducation. J'en ai fait mon mari et votre ennemi. Il serait resté près de vous, vous seriez conseiller général et décoré. Il vous a quitté, voyez ce que vous avez perdu à son départ. Partout où vous étiez seul, vous l'avez trouvé votre concurrent et il vous a obligé à baisser vos prix de plus de 25%. Comptez ce que vous avez gagné depuis 10 ans et augmentez-le d'abord de 25%, puis de tout ce que vous avez perdu à gagner par ce que nous vous avons enlevé de travaux et de ventes, et vous verrez ce que je vous ai coûté sans vous menacer. Aujourd'hui, j'aurai belle de répondre à vos menaces par d'autres menaces, car j'ai aux mains un instrument qui vous fera chanter plus d'un air triste, mais je n'en ferai rien. D'abord parce que je trouve ça bête, et puis, si je vous prévenais de ce qui vous attend, ça vous enlèverait la surprise et je me réjouis de vous la laisser. Ça se fait entre bons parents, les surprises. À mesure qu'elle parlait d'un ton posé, sans se presser, sans hausser la voix, en sifflant ses paroles entre ses lèvres minces, elle l'examinait et le voyait pâlir. Sa face se décolorait tandis que ses yeux s'injectaient de sang. Ses dents se frottaient les unes contre les autres avec des tremblements de lèvres. Il enfonçait ses ongles dans le dossier de la chaise sur laquelle il s'appuyait et elle continuait toujours, se demandant s'il n'allait pas avoir réellement l'attaque d'apoplexie qu'elle avait prédite sans y croire. Elle voulut le pousser à bout.
« Vous voyez que je ne vous livrerai pas ma richette, » dit-elle.
« Et vous verrez que moi, je vous forcerai bien à me la remettre. Ah, vous osez me menacer et me railler ? Eh bien, vous verrez quelle guerre je vous ferai. » Je vous ruinerai et quand je devrais y manger ma fortune, je vous réduirai à la mendicité, je vous chasserai du pays. Vous verrez ce que c'est que la haine de Belloc et sa vengeance. »
Il était vraiment terrible et bien que ce ne fût pas la première scène qu'elle eut avec lui, elle ne l'avait jamais vu dans cet état de colère folle. Au temps de leur lutte, quand elle avait voulu se faire épouser, il avait toujours su s'observer et dans leur querelle, il avait toujours dit les choses les plus violentes d'une voix qui se contenait de peur du scandale. Mais en ce moment, il criait à tue-tête, il vociférait ses menaces, sans penser qu'on pouvait l'entendre, emporté par la fureur. Mais elle ne se laissa pas intimider.
« Vous ne comprenez donc pas que Marichette m'a tout raconté ?» répliqua-t-elle. « Vous vous imaginez donc que parce qu'elle est une honnête fille, elle est arrivée ici en me disant tout simplement « Je me suis sauvée pour me sauver. Elle l'a voulu. Mais je l'ai fait parler, moi. »
Elle remarqua qu'il laissait échapper un mouvement, qu'elle ne s'expliqua pas tout de suite, mais qui, cependant, la frappa.
Avec votre audace habituelle, vous croyez que vous n'avez qu'à nier et qu'entre M. Belloc, maire de Saint-Maclou, conseiller d'arrondissement, personnage important qui se défendra,
Et une pauvre fille qui accusera, ce sera vous qu'on croira. Il n'y avait pas de témoins, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous, nous en avons. Le carreau cassé. Et ce témoin-là vous accusera avec elle, comme vous accuseront aussi les matelots qui l'ont vu sortir de chez vous, folle d'épouvante. » Elle en avait encore à dire, mais elle s'arrêta, car il venait de lui tourner le dos et de marcher vers la porte. « Comment ? Il partait ?